can live in the past. We gon' make it last forever, hidden beyond a mask. Fake smile, but whether do you remember the time when everything was alright? Everything will be alright. Everything will be alright. We can live in the past. We can't make it last forever, hidden behind a mask. Fake smile, but whether do you remember the time when everything was alright? Everything will be alright. Everything will be alright.
Ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde?
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatale,
tatouée,
douce,
savante,
de l'être,
facile,
fidèle,
bonne femme,
au foyer,
moderne,
citoyenne,
de caractère,
combattante.
Écoutez-nous,
nous vous parlerons d'elle, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Chères auditrices et auditeurs. Donc, nous voici repartis pour une nouvelle saison d'Histoire d'elle.
Tout à fait.
Donc, toujours en compagnie de Marie-Christine.
Et de Mireille.
Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de Simone de Beauvoir, qui est aussi surnommée le Castor, donc philosophe iconoclaste qui changea le destin des femmes. Souvent considérée comme une théoricienne majeure du féminisme, notamment grâce à son magnum opus « Le deuxième sexe », publié en 1949, ouvrage encyclopédique s'inscrivant dans le courant philosophique de la phénoménologie et en particulier dans son mouvement existentialiste. Simone de Beauvoir a ardemment participé au mouvement de la libération des femmes dans les années 70. Elle a partagé sa vie avec le philosophe Jean-Paul Sartre et leur philosophie, bien que très proche, ne saurait quand même être confondue.
Alors, que dire ? Bah, on va commencer par sa naissance. Donc, elle voit le jour à Paris le 9 janvier 1908, dans un appartement cossu au 103 boulevard du Montparnasse. Son père est avocat, c'est un comédien amateur. Elle fait toute sa scolarité de l'âge de 5 ans au bac, au cours des IR, où sont scolarisées finalement les jeunes filles de bonne famille. Sa sœur cadette Hélène, dite Poupette, l'y rejoint 2 ans plus tard. Dès le plus jeune âge, Simone de Beauvoir se distingue par ses capacités intellectuelles. Elle partage chaque année la première place avec Elisabeth Lacoing, dite Elisabeth Mabille ou Zaza, dans son autobiographie. Et Elisabeth Lacoing devient rapidement sa meilleure amie. Dans sa jeunesse, Simone de Beauvoir passe ses vacances d'été en Corrèze, à Saint-Ibard, dans le parc de Mérignac. Créée en 1880 par son grand-père Ernest Bertrand de Beauvoir, la propriété avait été acquise par son arrière-grand-père Narcisse Bertrand de Beauvoir au début du XIXe siècle. On retrouve de multiples évocations de ses séjours heureux en compagnie de sa sœur Hélène dans ses mémoires d'une jeune fille rangée. Et c'est au contact de cette nature, au cours de ses longues promenades solitaires dans la campagne, qu'elle voit émerger en elle le désir d'une vie hors du commun. Après la Première Guerre mondiale, son grand-père maternel, Gustave Brasseur, ancien président de la Banque de la Meuse, qui a fait faillite, et son grand-père donc, est déclaré banqueroutier, précipitant toute sa famille dans le déshonneur et la déconfiture. Les parents de Simone sont donc contraints, par manque de ressources, de quitter l'appartement du boulevard du Montparnasse. Et ils se retrouvent dans un appartement sombre, exigu, cinquième étage sans ascenseur, dans un immeuble de la rue de Rennes. Et les relations entre ses parents se dégradent et Simone en souffre beaucoup. La suite de son enfance sera marquée par ce contexte, à la fois de déchéance un peu sociale et puis du fait que ses parents ne s'entendaient plus, quoi. Alors, dans son milieu, à cette époque, une jeune fille ne faisait pas d'études poussées. Hein. L'idée, c'était quand même qu'elle se marie, bon mari, et puis, si possible, un bon parti. Voilà. Pourtant, son père, passionné de théâtre et d'art dramatique, pense que le plus beau métier est celui d'écrivain. Il est convaincu que ses filles doivent s'y résoudre pour sortir de la condition dans laquelle elles se trouvent. Ne pouvant pas offrir de dot à Simone et à Hélène, il les encourage à poursuivre leurs études afin d'avoir un métier si elles devaient rester célibataires. Ce fut pour Simone la clé de l'indépendance et de la liberté.
Voilà, il faut bien commencer. Allez, alors un petit extrait de Stravinsky, là, Pulcinella, qui était un des morceaux préférés de Simone de Beauvoir. Alors, Simone, elle a été élevée par une mère très pieuse et elle est devenue elle-même une croyante exaltée et mystique pendant quelques années. Alors, mais elle va perdre progressivement sa foi à partir de 14 ans, hein, et bien avant son départ du court désir. Elle commence à s'émanciper intellectuellement de sa famille sans pouvoir immédiatement l'assumer au grand jour.
À 15 ans, mais son choix est déjà fait. Elle sera écrivain célèbre. Après le bac en 1925, malgré son attirance pour la philosophie, elle se dirige d'abord vers une licence classique. Elle entame donc des études supérieures à l'Institut catholique de Paris pour les mathématiques et à l'Institut Sainte-Marie de Neuilly pour les lettres. Mais son professeur de littérature française, Robert Garrick, catholique fervent mais surtout socialiste et humaniste très engagé, l'impressionne beaucoup. Il dirige un mouvement, les équipes sociales, qui se propose de répandre la culture dans les couches populaires. Et grâce à son cousin Jacques, dont elle est secrètement amoureuse, et qui se trouve être un des équipiers de Garrick, sa culture littéraire va s'élargir. Elle écrit donc dans les mémoires d'une jeune fille rangée.
Je trouvais sur sa table une dizaine de volumes aux fraîches couleurs de bonbons acidulés, des monterlans verts pistache, un cocteau rouge framboise, des barrettes jaunes citron, des claudels, des valéries d'une blancheur neigeuse, rehaussées d'écarlate. À travers le papier transparent, je lus et je relus les titres. Le Potomac, les nourritures terrestres, l'annonce faite à Marie, le paradis à l'ombre des épées, du sang, de la volupté et de la mort. Bien des livres m'avaient déjà passé par les mains, mais ceux-ci n'appartenaient pas à l'espèce commune. J'en attendais d'extraordinaires révélations. Soudain, des hommes de chair et d'os me parlaient, de bouche à oreille, d'eux-mêmes et de moi. Ils exprimaient des aspirations, des révoltes que je n'avais pas su me formuler, mais que je reconnaissais. J'écumais la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je lisais Guide, Claudel, James, la tête en feu, les tempes battantes, étouffant d'émotions.
Très bien. Alors, au cours de sa première année à l'Université de Paris, elle valide les certificats de mathématiques générales, littérature du moins, et latin. L'année suivante, cours de philo, et donc en juin 2027, elle valide le certificat de philosophie générale. Elle obtient finalement la licence S-Lettres mention philosophie au printemps 1928, après avoir en plus validé des certificats d'éthique et de psychologie. Et elle entame alors la rédaction d'un mémoire sur le Leibniz pour le diplôme d'études supérieures. À la faculté des lettres de l'Université de Paris, elle va rencontrer d'autres jeunes intellectuels, évidemment, dont Jean-Paul Sartre, qu'elle regarde comme un génie. Dès cette époque, se noue entre eux une relation qui deviendra mythique, longtemps supposée libre et égalitaire. Elle sera son amour nécessaire entre guillemets, hein, si nous citons, par rapport aux amours contingences qu'ils seront amenés à connaître l'un et l'autre. Alors Simone de Beauvoir est reçue deuxième au concours d'agrégation de philosophie en 1929, juste derrière Jean-Paul Sartre.
Bon. La vie est bien faite.
La vie est bien faite pour les hommes. La mort de son amie d'enfance Zaza, quelques mois plus tard, va complètement la déprimer. Et ça marquera définitivement pour elle la fin d'un chapitre de sa vie. Enfin, il y a quelque chose...
Oui, là qui s'est un peu cassé pour elle. Là, voilà, c'était... Ouais. C'est terrible.
Alors, on va écouter quelque chose là.
Voilà, on va écouter une petite chanson. Mm-hmm. Donc Marie-Paul Bell, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Alors c'était à la fois pour lui rendre un peu un petit hommage, voilà. Et donc, alors c'est la chanson La Parisienne. Ce sont des paroles de Françoise Malé-Joris, qui est aussi elle-même écrivaine, voilà.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas caradiaca, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait griller. Bientôt
j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dis le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite.
Ça va vite,
et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin, me sachant original.
Je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo.
Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Enfin à l'écologie,
je m'initie
et loin de la pollution,
je vais tendre mes moutons et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons.
Voilà. Bon, elle est très connue comme oui, chanson, oui. Mais bon, voilà. C'était bien d'aller réécouter un petit peu.
Ouais, puis 1976. Je trouve qu'on peut encore l'écouter.
Oui, bah oui, oui.
Bon.
Et puis pour l'émancipation de, ah ouais, de ouais. Simone de Beauvoir, là, voilà, qui se sentait des ailes. Donc, alors, suite à l'obtention de son agrégation en 1929, elle va devenir donc professeure de philosophie. Elle est surnommée Castor par Herbeau, René Maheu, hein, dans ses mémoires d'une jeune fille rangée, car il trouve que Beauvoir est prof de l'anglais, proche de l'anglais beaver, qui veut dire castor, et que comme elle, les castors vont en bande et ont l'esprit constructeur. Ce surnom est ensuite repris et conservé par Jean-Paul Sartre, qui publie à l'édition Blanche chez Gallimard « Lettres au castor », un recueil de lettres qu'il a écrites à celle qui a été son charmant castor. Alors, entre 1929 et 1931, elle est professeure agrégée et donne des cours au lycée Victor Duruy à Paris, ce qu'elle vit comme une libération. Elle se trouve ensuite nommée à Marseille, au lycée Montgrand, et la perspective de quitter Sartre, lui-même nommé au Havre en mars 31, la jette dans l'angoisse, et ce dernier lui propose même de l'épouser afin d'obtenir un poste dans le même lycée. Bien que viscéralement attachée à Sartre, elle rejette cette proposition. Et elle écrit dans La force de l'âge:
je dois dire que pas un instant je ne fus tentée de donner suite à sa suggestion. Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales. En modifiant nos rapports avec autrui, il eut fatalement altéré ceux qui existaient entre nous. Le souci de préserver ma propre indépendance, ajoute-t-elle cependant, ne pesa pas lourd. Il m'eût paru artificiel de chercher dans l'absence une liberté que je ne pouvais sincèrement retrouver que dans ma tête et mon cœur.
Alors,
tout le monde n'est pas prêt à se marier. Hein.
Non. L'année où elle enseigne à Marseille, elle se découvre une passion pour la randonnée. Mais ça, je peux comprendre. Il y a quand même des belles randonnées à faire dans le coin de Marseille. Et elle ne cesse, dans les années qui suivent, d'arpenter les chemins de France, souvent seule, et dès qu'elle en a l'occasion. Je vous propose d'écouter un petit extrait du tome 2 de La force de l'âge.
Sous le ciel bleu, des tulles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne. Au loin, des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée et des gens allaient et venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais. Et je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler au jour le jour ma vie. Ici, je n'existais pour personne.
L'année suivante, elle arrive à se rapprocher de Sartre puisqu'elle obtient un poste au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, où elle fait la connaissance de Colette Audry, enseignante dans le même lycée. Alors, elle entretient des relations amoureuses avec certaines de ses élèves mineures, mais réfute jusqu'à sa mort toute idée de bisexualité, sujet qui fait l'objet de controverses entre ses dernières biographes. Le pacte la liant à Sartre lui permettant de connaître des amours contingentes. On est dans une zone un peu discutable. Bon, c'était à une époque particulière. Il n'y a pas eu de suite vraiment, mais enfin bon, elle a fini par se faire virer, mais
quand même.
Mais bon, ce serait maintenant. Je pense que ça poserait d'autres questions.
Ça irait beaucoup plus loin.
Voilà. Alors, elle présente ses élèves à Sartre, qui forment avec lui, selon un contrat pervers comme le qualifie Marie Jobonnet, des trios, voire des quatuors amoureux. Elle se lie également avec un élève de Sartre, le petit Bost, futur mari d'Olga Kozokiewicz, pour laquelle Sartre s'est pris entre-temps de passion non réciproque. Enfin bref, c'est un peu...
Oui, c'est...
Bon, c'est... voilà, c'est... particulier. L'amitié de ce groupe d'amis surnommé la petite famille ou encore les petits camarades reste indéfectible jusqu'à la mort de chacun d'entre eux, malgré quand même des petites brouilles, voire
des
conflits. voilà.
Plus c'est, important.
Ça n'avait pas l'air si simple.
Voilà, c'est ça. Voilà. Après, de ce qu'elle en dit dans ses écrits, ça paraît beaucoup plus.
Oui.
Si tout se passait très bien, mais en fait, c'était pas.
C'était un peu plus complexe
pas si
que ça.
Alors, je vous propose d'écouter Boris Vian et l'orchestre de Claude Luther dans la chanson de Charles Trenet, hein, « Que reste-t-il de nos amours ?»
Thank you.
Bon, c'est un enregistrement d'époque, hein, alors c'est pas le
ça,
son...
Ça grésille un petit peu.
Et pas terrible, voilà. Et donc, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, voilà, les prises de son n'étaient pas forcément au top. Alors, avec Sartre, elle va voyager beaucoup aussi en Europe, notamment aussi à bicyclette. Hein, ils vont faire beaucoup, beaucoup de vélo.
Bicyclette.
Dans des conditions très frugales. Et puis, ils vont visiter comme ça chaque été un nouveau pays. Alors, ils vont aller en Espagne, en Italie, en Grèce, en Allemagne, au Maroc aussi. Mais à côté de cela, avant... même avant d'être finalement tous les deux mutés à Paris, leur vie sociale reste quand même très parisienne. Et c'est là qu'ils se retrouvent souvent, ensemble avec leurs amis. Ils vont donc au théâtre, suivent assidûment l'actualité littéraire et cinématographique. En 1936, elle va enfin obtenir un poste à Paris. Elle enseigne au lycée Molière entre 1936 et 1939. Elle en est suspendue d'ailleurs à la suite de sa liaison avec Bianca Binnenfeld, l'une de ses élèves âgée de 16 ans, fils d'un juif polonais réfugié en France, avec ses deux filles et dont la mère est gravement malade. Alors son premier livre, Primauté du spirituel, écrit entre 35 et 37, est refusé par Gallimard et Grasset. Il paraîtra beaucoup plus tard, hein, en 1979. Un second livre, son roman, L'invité, est publié en 1943 par Gaston Gallimard, en plein Paris occupé. Elle y décrit, à travers des personnages imaginaires, la relation entre Jean-Paul Sartre, Xavier et elle-même, tout en dévoilant une réflexion philosophique concernant la lutte entre les consciences et les possibilités de la réciprocité. Cette Xavier, c'est une autre jeune fille mineure polonaise, Olga Kozakiewski, que Simone de Beauvoir avait séduite avant Bianca Binnenfeld et livrée à Jean-Paul Sartre. Alors, Simone de Beauvoir est à nouveau suspendue le 17 juin 1943 à la suite d'une plainte pour incitation de mineurs à la débauche déposée en décembre 1941 par la mère d'une autre de ses élèves, Nathalie Sorokine. La plainte aboutit à un non-lieu, mais Beauvoir est définitivement révoquée de l'éducation nationale. Bon, quand même, hein, elle persiste dans ses... Dans ses façons de faire avec ses élèves. Donc Simone de Beauvoir décrit dans ses mémoires une relation de simple amitié avec cet élève. Elle écrit en outre que l'accusation de détournement de mineurs, mensongère, est une vengeance de la mère de cet élève à la suite du refus que lui aurait opposé Simone de Beauvoir d'user de son influence auprès de sa fille pour lui faire accepter un mariage avec un parti avantageux. Pourtant, la nature charnelle des relations qu'elle entretenait avec Nathalie ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Le 2 septembre 1939, le lendemain de l'invasion allemande de la Pologne, Simone accompagne Jean-Paul à la gare de l'Est. Il doit rejoindre le service de météorologie au camp d'aviation militaire d'Essey-les-Nancy. Dans son journal intime, Simone note...
La gare est presque vide. Il y a un train à 6h24. Mais il semble que Sartre soit seul pour le prendre. Finalement, il prendra celui de 7h50. On passe un moment à une terrasse dans le petit matin doux. Sartre répète qu'il n'est pas lui, en danger. C'est juste une séparation. On se parle encore à la gare, séparé par une gaine. Puis il s'en va. Son dos, sa nuque disparaissent. Je m'en vais vite et je marche. Un si beau matin.